Proverbe chapitre 24, verset 16. Car le juste tombera 7 fois et il sera relevé, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous ensemble dans notre attachement à la vérité. Parce que Dieu ne peut pas bénir l'erreur, donc forcément quand nous demandons que Dieu nous bénisse pendant que nous nourrissons l'erreur, il y a un petit problème. Mais moi je prie aujourd'hui et je prie continuellement que Dieu puisse nous bénir dans notre attachement à la vérité pour nous donner du courage pour poursuivre notre marche en lien avec cette vérité, parce que vous allez inévitablement arriver au moment où vous serez venu à bout de toutes les vérités qu'il y a pour vous à découvrir, et c'est là que la difficulté se présente d'une manière beaucoup plus forte à vous et à nous. Quoique l'épreuve soit toujours présente, mais elle vient tout particulièrement quand il vous semble avoir tout obtenu. Et il vous semble être parvenu à la connaissance de toutes choses. Donc excusez-moi s'il y a des mouches et des moustiques, c'est parce que le diable ne l'aime pas quand je prêche la parole, donc il y a toujours un problème. Mais l'important, c'est que nous puissions développer la patience des saints et la persévérance, de pouvoir persévérer au travers des épreuves, au travers des difficultés, au travers des obstacles, au travers des embêtements, des frustrations, etc., etc. Il y aura toujours quelque chose, vous comprenez? Et aujourd'hui, non séparé de cela, j'ai intitulé notre méditation « Le juste et ses errances ». Le juste et ses errances. Ses errances, c'est ses activités dans lesquelles il erre. Le fait de errer, cela produit des errances, d'où le mot. Le juste et ses errances. Pas simplement ses erreurs, mais ses errances, ses égarements. Le juste et ses égarements. Voilà, et on se dit forcément, mais le juste, il est juste. Le juste, il ne s'égare pas. Ou alors il n'est pas juste. Et c'est ça, c'est vers cela que j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, frères et sœurs, pour que nous puissions saisir la vision de Dieu à cet égard, que nous puissions comprendre où nous nous tenons vis-à-vis de Dieu lorsque nous errons. Parce que lorsque nous faisons tout bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que nous sommes des pécheurs et que souvent nous errons, et c'est face à nos errances qu'il nous faut des réponses et des solutions afin que nous puissions continuer au-delà. Parce que c'est souvent nos errances qui nous font nous arrêter. Vous comprenez? Mais la Bible et l'Évangile tout entier nous est donné pour pouvoir pallier à cela et pour pouvoir passer outre ces choses-là, passer outre nos fautes, passer outre nos transgressions, passer outre nos péchés, passer outre nos errances. Vous comprenez? Donc cela n'est pas sans signification, et je pense que tout un chacun aujourd'hui, si tant est que nous avons un cœur pour recevoir, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, je pense que tous seront d'une manière ou d'une autre impactés et touchés. Du moins c'est mon désir et ma prière, notre prière pour cette méditation. Donc, j'aimerais que nous revenions vers notre lecture biblique ici, qui est d'ailleurs immédiatement lié à ce que nous étions en train de dire, où il est écrit dans Proverbes chapitre 24 et verset 16. Proverbes 24, verset 16, notre lecture biblique, je lis. Je vous le lis tel que c'est marqué dans la Bible King James. « Car le juste tombe 7 fois et il se relève, mais les méchants tombe ou se précipite dans le mal. » Mischief. The wicked falleth into mischief, ce qui veut dire que le méchant tombe ou se précipite dans le mal. Pas simplement le malheur, c'est pas ses circonstances le problème. Le problème, c'est que le méchant tombe et se précipite lui-même dans le malheur. Nous allons y revenir, dans le mal, pardon, parce que c'est le sens. Le juste tombe 7 fois et il se relève. J'aimerais que nous contemplions ici ces questions en lien avec ce passage. Tout d'abord, qui est le juste? Qui est le juste? C'est un langage assez étrange, n'est-ce pas? Le juste tombe. Vous disiez, non, il y a un problème, Seigneur. Le juste, il ne tombe pas. Il est juste. Il est droit. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et donc, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut dire, nous posons la question, pour laquelle nous allons chercher une réponse dans la parole de Dieu, qui est le juste? Et d'autre part, pourquoi le juste, ce juste-là, tombe-t-il? Et plus encore, n'est-il pas juste? Pourquoi tombe-t-il? N'est-il pas juste? Et plus encore, qui est juste? Qui est juste? Pas qui est le juste, mais qui est juste? Juste. Qui a la justice? Pour cela, nous nous tournons vers les paroles de Romains chapitre 3. Vous l'avez peut-être aperçu déjà, parce que j'ai utilisé des mots assez clés, de Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Ce fameux verset si angulaire, et pourtant si peu vraiment compris, je me souviens, pendant mes années, je ne devrais pas dire cela, mais pendant mes mois de préparation, on va dire, de conditionnement à la vérité évangélique, et je faisais pendant ce fameux été de l'année 2010, je crois, ces efforts d'évangélisation à travers Paris. Alors, déjà pour être chrétien à Paris, c'est un peu compliqué. Mais en plus de faire des efforts d'évangélisation à Paris, là, c'est encore plus compliqué. Là, vous passez au niveau complètement élevé, quoi. Et je me souviens qu'on utilisait beaucoup ce verset. Alors, malheureusement, on l'utilisait peut-être à tort, je pense. Parce que comme nous allons le voir après, la justice, ce n'est pas selon notre conception de la justice. Dieu a sa propre conception de la justice. On n'a pas le droit de choisir. Mais nous y reviendrons peut-être après du voulant. Ici, j'aimerais attirer votre attention vers la réponse à notre question, à savoir, qui est juste? Qui est juste, Seigneur? Si le juste tombe, qui est juste? Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul, pas même un seul juste, il n'y a pas un seul, dit la parole. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Donc vous voyez ici comment la parole de Dieu a tout réuni, toutes les possibilités et probabilités, elle a retourné toutes les pierres et a dit « Il n'y a point de juste, non pas même un seul, pas un seul qui fasse le bien. » Pas injuste. Pas injuste, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a point de juste. Et donc nous posons la question, a fortiori, qui donc est l'homme juste dont la Bible parle? S'il n'y a pas de juste, pas même un seul, qui est cet homme juste dont la Bible parle? C'est ça que l'on veut savoir. Parce que la Bible ne se contredit pas. Elle se contredit seulement à l'esprit de l'homme qui déjà a décidé de contredire Dieu. Mais Dieu ne se contredit pas. Simplement, il emploie un langage qui permet à l'homme impénitent de se frayer un chemin dans sa conscience rebelle. Vous comprenez? Dieu est miséricordieux comme cela. Et donc, vous voyez, quand nous, en tant que croyants et chrétiens, nous voulons pousser les gens dans un coin par notre argumentation, En fait, nous n'avons pas compris le caractère de Dieu. Parce que Dieu est dans les affaires, comme on pourrait dire, he is in the business of, comme disent en anglais, Dieu est dans les affaires de pourvoir aux âmes des excuses pour être rebelles. Vous comprenez? Dieu est comme ça. Ce n'est pas que Dieu, il se renie, c'est que Dieu, il ne veut pas rendre les hommes fous. Parce que si les hommes ne veulent pas aller au ciel, ils n'auront qu'un ciel, c'est cette terre, maudite par le péché. Mais Dieu est prêt à leur accorder ce ciel. Si c'est le seul ciel qu'ils ont, Dieu leur dit, profite parce qu'il sera court. Profite parce qu'il sera court. Il sera bref, très bref. Le ciel que nous, par la foi, désirons et vers lequel nous aspirons, il est éternel. Et nos souffrances en comparaison sont très brèves. Vous comprenez? Vous comprenez le contraste extraordinaire? Mais pour la personne qui n'arrive pas à voir ce contraste parce qu'elle ne veut pas exercer la foi et la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu dit, tu n'as pas la foi, alors profite. Profite tout de suite. Je vais te donner tout ce que tu veux. Ou plutôt, il dit cela, parce que la Bible dit cela. La Bible dit, Dieu fait le bien et il crée le mal. Mais en réalité, ça veut dire qu'il permet. Il permet, il ouvre les portes pour que le méchant accroisse et ait tout ce qu'il veut sur la terre. Vous vous demandez déjà, pourquoi le méchant, il est prospère tant? Parce que cette terre, ce sera son seul ciel. Vous comprenez? Vous me direz, mais la terre, ce n'est pas un ciel. Précisément, mais c'est le seul ciel qu'il veut bien croire, qu'il peut avoir et qu'il veut bien souffrir pour obtenir. Vous comprenez? Parce que des hommes sur la terre, ils vont économiser pour avoir une maison sur la terre. Mais avoir la foi d'économiser et de mettre nos économies dans le ciel parce que nous prévoyons avoir une maison dans le ciel, c'est autre chose. Cela requiert de voir par les yeux de la foi, d'entendre par les oreilles de la foi et de voir Dieu qui est invisible. Le même Dieu que Moïse voyait, quoi qu'il soit invisible. Vous comprenez? Et donc, nous posons la question, je fais des écarts, mais c'est lié aussi, c'est important. Qui donc est l'homme juste dont la Bible parle? S'il n'y a pas d'homme juste, s'il n'y a pas même un seul homme sur la terre qui fasse le bien, qui est cet homme juste dont la Bible parle? Parce que la Bible nous parle d'un homme juste. Nous l'avons lu. Proverbe chapitre 24, verset 16. Et pour répondre à cette question, nous nous tournons simplement vers les paroles de Romains chapitre 3, verset 21 à 25. Mais maintenant, il dit, nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi, et dans ce sens-là, il n'y a pas d'homme juste, parce que nul ne peut être justifié par les hommes de la loi, parce que tous ont péché, comme c'est écrit. 21. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée, sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage, ou pointant vers elle du doigt, la justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et surtout ceux qui croient, car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu. Verset 26, « Afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu comme juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Et Apocalypse chapitre 14, verset 12 nous dit plus encore la foi de Jésus. Et donc, qui est cet homme juste? Celui qui a la foi de Jésus et qui a été justifié, comment? gratuitement par la grâce de Dieu, verset 24, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cet homme-là est prononcé devant le ciel et devant Dieu, devant le Fils et le Saint-Esprit, comme étant juste. Comment est-il juste? Non pas par la justice qui vient de la loi, parce que nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi, mais par la justice qui vient par la foi à celui qui croit. Qu'est-ce que c'est marqué? Pour tous ceux et surtout ceux qui croient. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux et surtout ceux qui croient. Donc celui qui croit en Dieu, qui se repentit envers Dieu et exerce sa foi envers le Seigneur Jésus-Christ et dans le Seigneur Jésus-Christ, cet homme-là est ainsi, à partir de ce moment-là, prononcé comme étant juste, prononcé comme autant aussi juste que le Fils de Dieu lui-même. Parfaitement juste. La justice de Dieu lui est imputée par la foi. Par la foi qu'il exerce lui-même, mais qu'il reçoit de Dieu, la foi que Jésus-Christ a lui-même produite et dont il nous a donné et qu'il nous a légué en héritage. C'est d'ailleurs la foi que les 144 000 auront et pratiqueront, la foi de Jésus. Il n'y a pas une autre foi que celle de Jésus, ce n'est pas possible. Ou alors c'est une foi imparfaite. Et donc vous voyez que nous avons encore beaucoup de trajets à gravir, mais cette méditation a pour but de nous faire comprendre que dans ce parcours où nous avons beaucoup de choses à réformer, beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses sur lesquelles il nous faut changer nous-mêmes dans nos habitudes, dans nos façons de faire, de penser, d'être, de réagir, malgré que nous ayons tout cela et ce parcours intimidant peut-être, et peut-être parfois même décourageant, au vu de notre condition de pécheur, eh bien, toutefois, nous avons cette pensée de Proverbe 24:16 qui nous dit que l'homme juste tombe 7 fois. Et donc, avant que nous y allions, parce que nous allons y venir hein, petit à petit, maintenant que nous venons de voir que l'homme qui a été justifié gratuitement par la grâce de Dieu, c'est cet homme-là qui est juste, hein, celui qui a été justifié par la rédemption qui est en Jésus-Christ, cet homme est considéré comme juste aux yeux de Dieu, il n'est plus rangé dans la catégorie des méchants. Intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dès que cette personne-là fait preuve de foi en Jésus-Christ, croit en Dieu comme cela, il n'est plus rangé dans la catégorie des méchants. Vous allez me dire, mais comment tu sais, mon frère? Mais on vient de le lire. Dans Proverbe, il avait marqué, le juste tombe 7 fois. Vous allez me dire, mais au bout de 7 fois, c'est terminé ou quoi? À la 8e, il n'est plus juste alors. C'est pas ça le sens. 7 fois. Qui de vous est tombé que 7 fois dans votre vie? Vous êtes sérieux? Ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est il tombe jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la perfection de sa victoire sur le péché. C'est ça, parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand il y a marqué dans Apocalypse chapitre, je crois c'est 4, que c'est ici les 7 esprits de Dieu. Dieu, il n'a pas 7 esprits. Simplement, c'est la plénitude de l'esprit qui est ici symbolisée par ce langage. Vous comprenez? Quand il est marqué que la parole de Dieu est comme de l'or purifié 7 fois par le feu. C'est le sens, c'est que cette parole ne peut pas être améliorée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit que nul ne doit y ajouter ni en retrancher quoi que ce soit. Parce que la parole de Dieu, elle est parfaite et pure comme elle est. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Il n'y a pas de scorie dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Quand il est écrit qu'elle a été purifiée 7 fois par le feu, c'est-à-dire que Dieu, quand il a fourni les versets, quand il a tout mis en place, il a fait tout parfaitement. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Vous ne pouvez pas améliorer. Vous comprenez? Parce que c'est la complétude, la perfection est dans cette parole. C'est un langage symbolique. Et donc, quand il est écrit au sujet de ces hommes, ce juste, cet homme juste qui représente l'ensemble du corps des hommes justes, qui ne sont autres que les hommes rachetés, les hommes justifiés par la grâce de Dieu et le sang de Jésus, lorsque la parole de Dieu nous parle de l'homme juste, qui tombe cette fois. Il est question de cet homme-là qui, dans son parcours de la foi et de la sanctification, va rencontrer des obstacles et va faire des erreurs et va trébucher. Et j'aimerais ici attirer votre attention, ici, frères et sœurs, vers cette question à laquelle nous allons chercher une réponse de la parole de Dieu, à savoir, un tel homme, parce que maintenant, nous lisons que dans Romains chapitre 3, que cet homme-là, il est justifié, il est reconnu juste par Dieu, qui justifie celui qui a la foi en Jésus, il est justifié gratuitement par sa grâce. Et donc, un tel homme juste, parce que c'est comme ça que la Bible l'appelle, un tel homme est-il désormais infaillible? Cet homme maintenant qui est justifié par Dieu, est-il maintenant infaillible? Est-il à l'abri de toute erreur? Est-il à l'abri de toute errance? Rappelez-vous, j'ai intitulé, pour une raison que nous comprenons ici, notre méditation, le juste et ses errances. Nous venons de voir déjà que le juste n'est pas juste par son obéissance à la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, quoique personne ne sera sauvé qui ne l'obéit pas. C'est un équilibre à comprendre. Nous avons vu que l'homme juste est juste parce qu'il a été justifié, parce qu'il a cru en Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme-là est juste. Cet homme-là, la Bible le prononce comme étant juste, à savoir justifié gratuitement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Cet homme-là est juste, la Bible dit. Et donc cet homme l'est rangé, non plus dans la catégorie des méchants, mais dans la catégorie des justes. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais maintenant, nous voulons comprendre ici, cet homme-là, maintenant, est-il désormais infaillible parce qu'il a été justifié? Et j'attire votre attention vers les paroles de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 et verset 14 et 16 pour commencer. Je vais juste sélectionner des parties ici parce que je vous laisse libre de relire tout ce chapitre si vous voulez ne rien rater à partir du verset 5 et 6 jusqu'au verset 25. Ça, c'est pour comprendre vraiment tout. Mais moi, je vais me concentrer sur les parties qui nous aident à répondre à notre question, à savoir, est-ce que cet homme-là, cet homme juste, cet homme justifié, est désormais infaillible? Ce qu'on veut, ce n'est pas juste avoir la réponse comme ça. Vous me dites, mais non, il n'est pas infaillible, il est pécheur, donc il peut tomber. Ce n'est pas ça l'important, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça qui est important. C'est de comprendre pourquoi est-ce que nous croyons cela. De comprendre dans la parole de Dieu pourquoi cela est-il le cas. Et si tel est bien le cas, à savoir si nous n'avons pas fait d'erreur dans notre conception de la vérité, alors en quoi cela s'applique à moi? En quoi et comment puis-je appliquer cette parole d'une manière concrète, d'une manière réaliste, d'une manière utile? La parole de Dieu est utile à toute bonne œuvre, nous dit l'apôtre. Et donc, si elle est utile à toute bonne œuvre, on va savoir si toute parole de Dieu est utile à une bonne œuvre, ou à plusieurs, eh bien, quelle est l'utilité de ces paroles-là que nous lisons maintenant? Dans Romains chapitre 7, versets 14 à 16, je lis. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ici, rappelez-vous, ici, parce que ce n'est pas n'importe qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, étant l'apôtre gentil, étant un homme d'une grande consécration, n'est-ce pas? Indéniablement, une grande consécration, d'une grande expérience avec Dieu, nous dit ceci. En effet, nous savons que la loi de Dieu, des 10 commandements, est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Autrement dit, il est en train de dire, j'ai un désir de faire ce qui est bien, mais je vois que je me retrouve à faire ce qui est mal, et donc, mais je sais que la loi est spirituelle, et donc, le fait même que je me retrouve à faire ce que je sais qui n'est pas bien, me montre à moi, à ma conscience et mon intelligence que la loi, elle est bonne. À savoir, la loi n'a pas changé, mais moi, j'ai quelque chose en moi, là, que je suis en train de réaliser, qui me pousse à faire ce que je ne crois pas être bon. Comprenez? Suivez ici le langage et l'idée ici, le concept, la réalité qui nous est présentée dans cette parole, dans ces paroles de l'inspiration. Nous sommes ici en train de répondre à la question de est-ce que cet homme-là, qui est justifié par la grâce de Dieu et par sa foi en Jésus-Christ, est-ce que cet homme-là est infaillible? Nous avons déjà un assez gros aperçu de la réponse, mais nous voulons aller au bout ici du raisonnement. Notamment en lisant à partir du verset 21 maintenant. Parce que jusqu'au verset 20, il réitère plus ou moins cela, plus ou moins je dis. Et verset 21, je lis. « Je trouve donc cette loi en moi. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, dit-il, qui me délivrera de ce fardeau de mort. » Donc, est-ce que vous voyez ici le contraste que l'apôtre Paul nous présente ici sous l'esprit de l'inspiration vis-à-vis d'un combat auquel il s'est retrouvé confronté et auquel tout homme et tout particulièrement tout chrétien se trouvera lui-même confronté, même après avoir reçu le Saint-Esprit, avoir été régénéré dans son esprit, avoir reçu et goûté à la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez le contraste ici? Il dit, je trouve cette loi en moi. La loi qu'il trouve en lui, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est autre chose. Je trouve donc cette loi en moi, c'est quoi la loi? Quelle est cette loi qu'il trouve en lui et qu'il est en train ici de décrire à nous, à notre entendement, notre intelligence, notre méditation? C'est celle-ci. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc il dit, le mal est attaché à moi, à savoir le mal est en moi, dans mon corps. Parce qu'il dit au verset 20, ou plutôt au verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire, que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Alors, il n'est pas ici en train de dire « Bon, ce n'est pas ma faute, c'est le péché. » Ce n'est pas ça l'idée. C'est de comprendre ici que ce qui le pousse à faire le mal, ce n'est plus son esprit, à la différence de quand il était tel que c'est décrit au verset 5, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés excitées par la loi agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. » À ce moment-là, comme c'est marqué, je crois, dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, à ce moment-là, avant d'avoir été régénéré dans l'esprit et d'avoir l'homme intérieur, le nouvel homme qui est Christ, nous accomplissions les convoitises de la chair et de l'esprit. Je crois que c'est à peu près ça le verset. Mais ici, cet homme qui nous est présenté ici, cet homme juste dont l'apôtre Paul se montrait comme faisant lui-même partie, parce qu'il dit à la première personne toutes ces choses-là, il ne dit pas c'est une personne imaginaire. Non, non, non. L'apôtre Paul est ici en train de décrire son expérience. Il n'est pas ici en train de décrire une expérience hypothétique, peut-être passée, peut-être future. Il décrit son expérience présente. Il dit, c'est des choses que moi, je rencontre dans ma vie chrétienne parce qu'il y a une autre loi en moi que la loi de Dieu dans l'âme intérieure. Et donc, qu'est-ce que c'est? Il dit, cette loi, elle habite en moi. C'est le péché qui habite en moi, à savoir dans sa chair de péché. Sa chair pécheresse, on appellerait aussi cela la nature humaine déchue. Par contre, il dit au verset 22, c'est là que vous voyez le contraste entre le verset 21 et 22, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon quoi? Selon sa chair, selon sa nature pécheresse? Non, selon l'homme intérieur, selon sa conscience. C'est là que l'Esprit de Dieu habite, telle une citadelle qui contrôlerait tout un château, toute une ville. C'est ça ici qui nous est présenté et la représentation qui nous est donnée, notamment par à travers l'un des livres de John Bunyan où il y avait la guerre de l'âme, je crois que ça s'appelle ça, la guerre de l'âme. Et donc il dit, moi je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais il y a une autre loi en moi, à savoir, comme je l'ai souvent entendu dire, la loi de l'hérédité, que j'ai hérité de mes parents, qui eux-mêmes ont hérité de leurs parents, etc., etc., en remontant jusqu'à Adam, qui nous a légué une chair pécheresse, à savoir une chair de péché, à savoir une chair avec des propensions au péché. Donc avant que Adam se soit soumis au règne du mal et du péché, il avait une chair sans péché, une chair parfaite. Et ensuite, toute sa nature a changé et il nous a légué à ses enfants et à nous à travers tout le fil des siècles et des millénaires cette nature de désobéissance et portée à la désobéissance. Et c'est ça que l'apôtre Paul était ici en train de décrire et c'est ce à quoi l'homme juste se retrouve maintenant confronté, mais d'une différente perspective et dans une différente dimension. L'homme juste, à savoir l'homme qui a été justifié par la grâce de Dieu, a reçu la régénération de l'Esprit de Dieu à travers son entente et sa lecture de la parole de Dieu. Et maintenant, je crois que nous le lisons au verset 10, verset 9. Vous voyez ici, l'apôtre Paul, il fait la comparaison entre quand il était un homme qui n'était pas justifié par la grâce de Dieu, qui ne goûtait pas à l'Esprit et au gage du salut, en son être fort, en son fort intérieur. Et il compare cela à son expérience en Christ, après qu'il ait reçu le Seigneur, après qu'il se soit converti, après qu'il se soit repenti, et qu'il ait exercé sa foi en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons aussi au verset 9, toujours Romains chapitre 7, il dit, pour moi, autrefois sans loi, c'est intéressant, pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Il dit ici l'apôtre Paul, pour moi, avant que la loi dans sa vraie signification vienne à moi, parce que rappelez-vous, c'était un pharisien, Paul, avant il s'appelait Saul. C'était un pharisien. Et donc la loi, en réalité, vous vous diriez peut-être, il la connaissait, la loi lui était déjà venue. Pas seulement ce qu'il dit ici. Il dit « Avant, je ne connaissais pas la loi en Christ. Avant, je connaissais la loi selon la chair, selon ce que moi je veux faire de la loi. Mais, dit-il, pour moi, autrefois sans loi, je vivais, tout allait bien, tranquille. La loi, je décidais ce qui me touche, ce qui ne me touche pas. La loi, je la prends comme je veux, je la retourne, je fais gauche-droite. La loi, je la maîtrise, je la manipule. » C'est ce que l'homme charnel fait avec la loi de Dieu, avec les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. L'homme charnel, il dit, oui, c'est bien, ça me sert ou ça ne me sert pas. Je le prends ou je ne le prends pas. Je décide. C'est moi qui suis maître dans l'équation. L'homme charnel, il fait cela avec les plus grandes exigences de Dieu. Il dit, oui, ça c'est pour cette personne-là, ça c'est pour elle. On va tout distribuer. Mais il n'y a rien qui s'applique à moi. Et donc, pour l'apôtre Paul, il disait, c'était bien pour moi avant. C'était lui qui gardait les habits de ces personnes qui ont lapidé Étienne, n'est-ce pas? Et donc c'était ça qui était la loi pour lui avant. Mais après, il dit, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Le commandement est comme un feu qui attise la chair. Verset 10. Et moi, je suis mort. Je suis mort. Cette loi, ce commandement étant venu, m'a montré combien j'étais vil, combien j'étais désobéissant, combien je n'étais pas disposé à obéir à Dieu vraiment. Je croyais que tout allait bien. Il disait, je vivais avant. Mais ensuite, Jésus est venu, l'Esprit a illuminé mon esprit, ma conscience, et le commandement est venu dans toute sa réalité choquante. Et il disait, et moi je suis mort, je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Le commandement qui, si je faisais tout bien, m'aurait dit, c'est bien, tu as tout bien fait, il m'aurait réjoui. Le commandement m'aurait dit, c'est bien, tout ça, c'est les choses que tu fais. Mais non. Le commandement est venu à moi et m'a dit, tout ça, tu n'as pas fait. Tout ça, tu as brisé, violé, transgressé. Paul, Saul, Victor. Et verset 11, car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Autrement dit, on peut très bien l'illustrer par la vie d'un bébé et d'un enfant. Si vous permettez à l'enfant de faire tout ce qu'il veut, vous avez l'impression que l'enfant est plus ou moins obéissant. Il n'y a pas de règles, donc vous ne savez pas vraiment. Mais si vous dites à l'enfant, alors ça, tu ne touches pas. Qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? S'il n'a jamais été confronté à ce genre de dictat, l'enfant, il va vouloir toucher. Il va dire, tout ce qu'il va vouloir, toute sa nature humaine, elle va se porter vers cette chose qui lui est interdite. C'est parce que nous avons une chair humaine qui est portée à la désobéissance, à désobéir, à faire l'inverse de ce qui nous est ordonné, quand bien même ce fut une obligation juste et justifiée. Et donc, ce même ordre qui est censé préserver l'enfant, en réalité, à cause de la nature de l'enfant et de ses propres choix, parce que l'enfant aussi fait ses choix, le porte à sa ruine, à sa chute. Ce commandement qui était censé le préserver le conduit vers le danger et le péché. Le péché prenant occasion du commandement m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Verset 12. Ainsi la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de justifier la loi de Dieu. Il dit, dans tout cela, la loi, il n'y a rien à dire. Elle est sainte, juste et bonne. Le commandement, tous les commandements de Dieu, bon, saint, pur. Par contre, le péché a pris occasion du commandement et le diable aussi fait cela, c'est-à-dire, il va dire en substance, regarde tous ces commandements-là. T'en as pas assez de devoir tout obéir, là. Oh, tu te sens pas un peu coincé, prisonnier de toutes ces lois-là. Tu ne sais pas mieux de faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. C'est ça que le diable fait. Le monde fait cela aussi à sa manière. Et la chair aussi prend occasion du commandement et nous conduit à la mort. Parce que, comme c'est écrit dans Romains autre part, le salaire du péché, c'est la mort. Je crois que c'est ça. Mais le don de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Je crois que c'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc voilà, ça revient à notre question de savoir, est-ce que cet homme qui est justifié est désormais infaillible? Nous voyons que non, l'homme qui a été justifié, et nous, frères et sœurs, qui avons été justifiés par la grâce de Dieu, qui avons goûté au Saint-Esprit, qui goûtons au gage de la vie à venir, la vie éternelle, qui goûtons aux merveilles de la parole de Dieu, merveille de sa providence, merveille de sa miséricorde, de sa présence, de son intercession, du soutien et de l'envoi de ses anges pour nous protéger de mille et un dangers. Toutefois, nous ne sommes pas infaillibles. Nous sommes aussi en proie aux tentations. Et donc, l'homme qui a accepté le don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qui a reçu le Saint-Esprit, il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais il reste en proie aux tentations de la chair, du monde et du diable. Il est justifié, mais il n'est pas encore pleinement sanctifié. Vous comprenez? Et j'aimerais ici que nous fassions... Prenons un moment pour faire la distinction entre le juste et le méchant. Revenons ici dans ces paroles assez centrales de notre méditation dans Proverbes chapitre 24, verset 16. Proverbes 24, verset 16, nous y revenons. Où je lis. Avant que je lise, donc, quel est l'élément qui distingue le juste du méchant? Dans ce que nous lisons ici dans ce passage, il y a marqué, comme c'est marqué dans la Bible King James, je vous le lis, « Car le juste tombe sept fois et il se relève, mais les méchants tomberont dans le mal, ou les méchants se précipiteront dans le mal. » Et donc, quel est l'élément qui distingue le juste du méchant? Vous avez un passage assez distinct ici et une ligne bien tracée qui permet de caractériser chacune de ces deux catégories. Que fait le juste? Il tombe sept fois, nous dit-on, mais chaque fois il se relève ou il sera relevé, il se relèvera. Mais vous lisez au sujet du méchant qu'il se précipite dans le mal ou le malheur. Et donc vous voyez que ce n'est pas le péché qui distingue le juste du méchant, parce que tous sont péchés. Il s'agit donc d'autre chose. Et quelle est cette autre chose? Quelle est cette différence? Eh bien, c'est que le juste, il tombe, mais il se relève. Malgré le nombre de ces chutes, comme c'est fait allusion par ce nombre sept fois, comme je l'ai mentionné auparavant. Mais d'un autre côté, le méchant, lui, dans ses chutes, il n'est pas écrit qu'il se relève. Au contraire, il est écrit qu'il se précipite plus profondément dans le mal, à savoir dans le péché. Vous comprenez? Donc, le juste, il tombe, mais à chaque fois, il dit, ce n'est pas ici mon objectif. Mon objectif, il faut que je continue. Je suis dans un trajet. Le méchant, il dit, si je tombe, je tombe pas, c'est quoi? Ça fait quoi? C'est quoi la différence? Qui est Dieu? Dieu, il est là, mais je fais quand même ce que je veux. Vous voyez, ça vous montre la distinction. Parce que le méchant, il peut être religieux aussi. C'est ça, c'est un paramètre à prendre en compte aussi. Parce que nous voulons nous assurer que nous avons le bon esprit. Le méchant, il dit, je pêche. Et si je pêche plus, c'est quoi la différence? Donc le méchant se précipite dans le mal. Le méchant va faire plus de mal, plus de péché. Il peut être bon aux hommes, mais quand même faire le mal. C'est intéressant. C'est une distinction à prendre en compte aussi. C'est possible d'être bon, d'apparaître bon aux hommes, mais d'être comme un sépulcre blanchi, plein d'eau pourrie à l'intérieur. Combien c'est comme ça? Et je lis ici, donc nous voyons la distinction, n'est-ce pas? Je pense que nous avons assez bien élaboré. Le juste, il se relève. C'est la distinction. Mais nous allons continuer ici en nous tournant vers les paroles de Psaume 34. La raison pour laquelle nous contemplons cela ici, frères et sœurs, c'est pour que nous nous posions la question. Si j'ai péché, parce que nous parlons ici, notre méditation porte sur le juste et ses errances. Le juste, bien qu'il ait été justifié, il ne se sent pas juste à cause de ses errances, vous comprenez? Et donc le juste est troublé par ses errances. Et donc le verset ici de Proverbe 24, 16, il est assez bref, il est très condensé. Mais combien de choses sont contenues là-dedans? Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière cela. Vous comprenez? Le juste se pose la question, mais Seigneur, en fait, je suis un hypocrite, Seigneur. Toutefois, quand bien même le juste peut être souvent assaillé de plein de pensées par lesquelles le diable l'attaque de tous côtés, toutefois il ne suit pas la conduite et la voix du méchant qui dit « Dieu, pas Dieu, qui tu es ben. » Vous comprenez? Le juste peut être assaillé de doutes, de peurs, de pensées négatives à son propre sujet. Toutefois, son esprit est tout de même de poursuivre la route. Il montre peut-être parfois et peut-être souvent des traits de caractère qui ne sont pas dignes d'un homme qui professe foi au nom de Jésus-Christ. Souvent, cela se passe. Combien de fois cela se passe pour nous, pour moi? Toutefois, son esprit, ce n'est pas de dire, on connaît Dieu et tout, l'évangile, blablabla, blablabla. Vous comprenez, il faut que nous fassions attention à notre esprit. L'esprit du juste, c'est de dire, je suis tombé, Seigneur, aie pitié de moi, et relève-moi, et j'ai envie de continuer avec toi, Seigneur. C'est ça l'esprit du juste. Psaume 37, verset 23. Je lis. Les pas, psaume 37, versets 30, 23 et 24, les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. Quel genre de pensée c'est ça? Vous comprenez un peu, frères et sœurs? Ce n'est pas juste de dire oui, bon, justification, sanctification, etc., etc. Ce n'est pas ça l'idée. Parce que quand on est comme ça, en fait, on abolit toutes les réponses que Dieu aimerait dans sa grâce et son amour nous pourvoir, nous donner, par lesquelles il aimerait nous consoler. On dit, Seigneur, j'ai déjà les réponses, c'est bon. Non, la parole de Dieu, c'est pour les hommes intelligents. Si nous étions des robots, nous n'avions pas besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous appeler à l'évangile et à l'obéissance de l'évangile. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, si la parole de Dieu nous semble un peu désuète, un peu obsolète parfois. C'est important de réfléchir au fait que la parole de Dieu, elle est vivante. Et donc, il ne faut pas la considérer comme morte. Les hommes du monde, ils considèrent la parole comme morte. Ils disent, ta parole, la Bible, qui 66 livres, tellement de personnes qui ont écrit la Bible, on ne sait pas, blablabla. Non, ce n'est pas notre esprit. S'ils veulent croire cela, laissez-les avoir leur ciel. Mais nous voulons un ciel que la parole nous annonce. Et donc, nous voulons considérer attentivement tout le reste de ce que la parole nous dit à notre sujet ou au sujet des autres, mais principalement au sujet de ces personnes-là qui sont appelées à être sanctifiées et à être rendues parfaites, semblables à l'image de Christ. Au caractère de Dieu. C'est ça que nous voulons. Pas juste avoir les réponses pour les donner ou les fournir. Ce que je veux, ce que nous voulons, frères et sœurs, c'est plus que des réponses. C'est des solutions internes, personnelles, intimes. Des solutions que quand il n'y a plus personne, quand tous vos amis vous ont abandonné, quand vos familles elles vous ont délaissé, alors vous pouvez crier à Dieu sur la base de ces réponses-là et dire, Seigneur, je te connais, toi. Toi et moi, on se connaît, Seigneur. Tu connais combien j'ai péché contre toi, Seigneur, mais je n'ai pas envie d'être comme les méchants qui disent, bah, le péché, oui ou non, quelle est la différence? Seigneur, moi je veux continuer avec toi. Le juste et ses errances. Quand bien même le juste erre, la parole de Dieu dit, il tombera 7 fois. Mais après, il aura compris. Après, il rendra gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc, le fait même que Dieu permet au juste de tomber 7 fois, de tomber jusqu'à ce qu'il ait parvenu à une victoire parfaite, montre combien Dieu fait de la place pour la liberté de l'homme, pour que dans sa liberté, l'homme puisse entièrement pratiquer son devoir, entièrement se conformer à l'appel de la parole de Dieu. Et donc, le langage est assez particulier parce qu'il est écrit, toujours dans notre passage, psaume 37, verset 23, « Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voix. » S'il tombe, si l'homme de bien tombe, dit-il, c'est ça le langage. Si l'homme de bien tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main, ou comme c'est marqué dans la Bible de King James, car l'Éternel le soutient de sa main. Ce n'est pas juste que l'Éternel, il le tient par la main comme ça. Dieu tout entier, il le tient. Sa grande main miséricordieuse et gigantesque. Vous comprenez? C'est ça l'image. L'image, c'est que nous sommes un tout petit microscopique minuscule oiseau, ou un tout petit, une créature toute minuscule, et Dieu a sa gigantesque main, et dès que nous tombons, pas. Vous comprenez? C'est ça l'image. C'est pas juste qu'il nous tient par la main comme ça, là. C'est plus que ça. Dieu, dès que nous tombons, il prévoit avec ses mains de providentielles et toutes puissantes que tous les événements conduisent à notre relèvement et notre purification et notre pleine sanctification. C'est l'objectif du Seigneur. Donc, dans chacune de nos chutes, Dieu pourvoit à faire de cette chute une gloire, une glorieuse victoire. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans la chute, mais Dieu va orchestrer nos chutes. Et donc cela jette la lumière sur cette méditation du juste et de ses errances. Comme un père qui surveille attentivement son enfant qui apprend encore à marcher. C'est ça l'image. Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voix. Dieu prend plaisir à l'homme qui obéit. Mais s'il tombe, s'il désobéit, s'il transgresse, s'il pêche, s'il cède à la tentation, que fait Dieu? Ah non, tu n'es plus mon enfant maintenant. Est-ce que Dieu fait comme ça? Dites-moi, qui vous connaissez sur la terre qui fait ça avec son enfant? Vous comprenez? Qui vous connaissez sur la terre, un père qui voit son enfant tomber et qui dit « Allez, mais c'est bon, tu n'es plus mon enfant, toi. » Qui fait ça sur la terre? Et pourtant, combien de fois nous pensons que Dieu fait ça avec nous? Vous comprenez? Est-ce que vraiment ce n'est pas un affront à l'amour de Dieu? Combien plus, disait Jésus, le Père vous donnera le Saint-Esprit? Il disait, si les hommes mauvais, les parents mauvais, sur cette terre savent donner du pain à leurs enfants et ce dont ils ont besoin, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et si les hommes sur la terre, ils savent avoir patience de leurs enfants qui sont encore en train d'apprendre à marcher sur leurs deux pattes arrière, combien plus notre Père Céleste aura patience de nous lorsque nous apprenons encore à marcher droitement dans la vie spirituelle. Si nous tombons, que fera Dieu? Il nous soutient par sa main. Il nous aide à marcher, il nous dit « Relève-toi ». On continue. Tu ne vas pas apprendre à marcher sans tomber. Ça n'arrive pas, ça. Hein, peut-être ça arrive. Je sais pas. Il faudrait peut-être que vous me donniez vos témoignages. Mais quoi qu'il en soit, dans la marche chrétienne, parce que la Bible dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. S'il tombe 7 fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est relevé 7 fois. Vous comprenez? Donc cela montre le taux de détermination et le caractère de cette personne que Dieu soutient. S'il tombe, dit la parole, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel le soutient de sa main. Et donc, il se peut que le juste dans sa marche chrétienne se perde un peu, soit déstabilisé, découragé. Il se peut qu'il défaille dans sa lutte contre le péché dans la chair, comme nous avons vu dans Romains 7. Il se peut qu'il faille dans sa lutte contre la chair, dans sa lutte contre le péché dans la chair et les tentations du monde, mais Dieu n'a pas changé son titre parce qu'il a trébuché et s'il a peut-être encore trébuché et si peut-être il trébuche encore. Dieu n'a pas changé son titre. Il n'a pas dit « Maintenant tu es orphelin ». Non. Il est fils, elle est fille de Dieu. Et le Père désire poursuivre son œuvre pour la mener à sa perfection. Rappelez-vous ce que nous avions vu dans notre méditation précédente et qui vient ici s'appliquer de manière beaucoup plus intime. Jésus disait à Jacques et Jean, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr les hommes, mais pour les sauver. » Et donc pour vous et moi, frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour nous faire périr. Quand bien même nous avons fauté, et quand bien même dans notre marche chrétienne encore nous avons erré, mais il est venu pour nous sauver. Et ici, j'aimerais brièvement ici conclure notre méditation en méditant un tout petit peu, et je vous laisse dans votre propre temps élargir cette méditation. Méditant sur la réponse de David quand son péché lui fut révélé, ou plutôt quand son péché fut réprimandé, parce qu'il connaissait lui-même son péché. Comment est-ce que David a réagi lorsque Dieu mit en lumière son grand péché par l'entremise du prophète Nathan? Allez avec moi dans 2 Samuel chapitre 12. De Samuel, chapitre 12, versets 1 à 14. Ou plutôt, non. Après que Nathan ait présenté toute cette longue dénonciation à David, d'abord l'introduction et ensuite la traduction pour son propre cas, nous lisons verset 13. Putain, je vais lire verset 7. Alors Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Vous connaissez l'histoire. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la maison de Saül, je t'ai même donné la maison de ton Seigneur et les femmes de ton Seigneur dans ton sein, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si c'était peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des enfants d'Ammon. Et maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as enlevé la femme d'Uri le Héthien afin qu'elle fût ta femme. Ainsi dit l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un de tes proches et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil, etc. Verset 12, car tu l'as fait en secret, mais moi je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13, alors David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, « Aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras point. » Comment est-ce que David a réagi à cette tranchante réprimande de Dieu par l'entremise du prophète Nathan? Il a tout entendu, il a absorbé et il a confessé. Il a dit, réfléchissez ici, parce que si vous vous rappelez de l'expérience de Élie avec, je crois qu'on appelait son nom, Achab, je ne sais plus, comment dire en français. Si vous vous rappelez aussi de Jérémie avec le roi de Juda et les princes, vous vous rappelez combien ils étaient en danger pour leur réprimande. Et donc, Nathan aussi lui-même aurait pu être en danger devant un roi de lui révéler une telle chose. Et David, s'il avait été d'un tel cœur, aurait très bien pu dire « Ah non, ça tu dis pas ça. » Et il aurait ordonné la mort de Nathan. Mais non, parce que David nous présente ici le cœur d'un homme juste. Il a dit « J'ai péché contre l'Éternel. » Et j'aimerais ici lire brièvement cette déclaration de l'Esprit de prophétie dans Patriarches et Prophètes, page 699 et paragraphe 5, où il est écrit, directement par rapport à cela, « Le cœur de David fut touché par la réprimande du prophète. Sa conscience se réveilla. Sa culpabilité lui apparut dans toute son énormité et son âme pénitente se courba devant Dieu. D'une voix tremblante, il dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » Donc, il ne fournit aucune excuse, rien du tout. Juste, il dit, il confessa. Et je lis aussi page 703, paragraphe 1. « Le repentir de David était profond et sincère. Il ne fit pas le moindre effort pour pallier son crime. » Sa prière ne trahit aucun désir d'échapper au châtiment dont il était menacé. Il vit l'énormité de son péché devant Dieu. Il vit la souillure de son âme. Il abhorra son péché. Ce n'est pas seulement le pardon qu'il demandait, mais la pureté du cœur. David ne s'abandonna pas au désespoir face à cette lutte. Il voyait dans les promesses divines aux pécheurs repentants la preuve de son pardon et de la faveur du ciel restitué, etc. Vous pouvez le relire en votre temps. Paragraphe 3. David était tombé, mais Dieu le releva. Rappelez-vous, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. David était tombé, mais Dieu le releva. Comment est-ce que Dieu a relevé David? Par la réprimande et le fait que David avait un cœur à la recevoir. Dieu n'aurait pas pu relever David si David était comme Saül. Parce que ces deux personnes sont deux types de personnes qui sont les deux catégories qui sont présentées dans le passage de Proverbes 24, verset 16, qui est notre lecture biblique. David était tombé, mais Dieu le releva. Et il était maintenant plus pleinement en harmonie avec Dieu et en sympathie avec ses semblables qu'avant sa chute. Dans la joie de son soulagement, il chantait « Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as ôté la peine de mon péché. Tu es ma retraite. Tu me garantis de la détresse. Tu m'environnes de chants de délivrance. » Et cela se poursuit ici. Paragraphe 8. Toute âme qui, reprise par Dieu, reconnaît ses fautes et consent à les confesser humblement, peut être assurée qu'il y a pour elle de l'espoir. C'est là qu'est l'espoir. C'est dans notre réaction face à la réprimande. C'est ça qui va être l'élément déterminant pour savoir de quel côté nous nous trouverons rangés et à quelle catégorie nous appartiendrons vis-à-vis de notre réponse face à la réprimande. Le Seigneur ne repousse jamais une âme vraiment repentante. Il nous a laissé cette promesse de point qu'il se saisisse de ma force pour faire la paix avec moi et il fera la paix avec moi. Ésaïe 27, 5. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu car il pardonne abondamment. Ésaïe 55, verset 7. Et le dernier passage que j'aimerais que nous lisions pour vraiment clôturer cette méditation et qui nous ramène droit à ce passage clé qui présente le juste et ses chutes et le méchant qui se précipite dans le mal. Et nous voyons ici, comme je disais, que l'élément distinctif, ce n'est pas le péché, c'est la réponse face à la réprimande, face à la correction qui vient de Dieu. Je lis, quand nous considérons l'exemple de David et l'exemple de Saül, hein, qui était son prédécesseur, et David vint lui succéder au trône, n'est-ce pas ? Quand nous contemplons le contraste entre les deux, nous voyons précisément ces deux catégories illustrées en eux. Et nous pouvons, si nous considérons notre propre vie, savoir de quel côté nous nous rangeons et si nous avons le sentiment que nous avons manifesté des caractéristiques qui appartiennent au mauvais côté, alors nous pouvons nous efforcer de manifester les caractéristiques de cet homme qui représente la catégorie de l'homme juste. Je lis. Bien des gens ont murmuré contre ce qu'ils appellent l'injustice de Dieu, pardonnant à David une faute énorme, alors qu'il avait rejeté Saül pour avoir commis ce qui leur paraît des péchés moins graves. Mais David s'humilia et confessa son péché, tandis que Saül méprisa les réprimandes et s'endurcit dans l'impénitence. Donc, Saül avait commis de plus petits péchés en apparence et David de plus grands péchés. Mais ce qui était déterminant, ce n'était pas la grandeur de ces péchés-là, mais cela, c'était la réponse qu'allaient fournir ces hommes à la réprimande de Dieu. Rappelez-vous, Saül, quand Samuel vint à lui en lui disant « Tu as désobéi à l'ordre du Seigneur », Saül a dit « Non, je n'ai pas désobéi. J'ai obéi à l'ordre que le Seigneur m'a donné. » Donc, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que cela manifestait en lui, en son cœur? C'est ça l'important. C'est qu'il méprisait les réprimandes. Tout ce qu'il voulait, c'était l'approbation du prophète pour pouvoir garder bonne figure devant le peuple. C'était tout ce qui l'intéressait. Sa relation avec Dieu, ce n'était pas vraiment le plus important. Ce n'était pas la priorité pour lui. Et il s'endurcit dans l'impénitence, à savoir... Il continua, comme nous voyons dans le deuxième volet de son expérience avec Samuel, face à Amalek et à ce peuple et à son roi, il continua à agir d'une manière qui méprisait les ordres de Dieu et qui agissait selon son propre bon vouloir. Et David, d'un autre côté, avait commis ce grand, énorme péché. Parce qu'avec Bathsheba et Uri, son mari, un horrible péché. Toutefois, lui, David, quand le prophète et le serviteur de Dieu vint à lui et lui révéla l'horreur de son péché, David ne fit pas ce que Saül fit. David était tombé. Mais maintenant, il acceptait que Dieu le relève. Il ne dit pas, non, non, je ne suis pas tombé. Tout va bien pour moi. On va juste te mettre à mort. Il dit, Qu'est-ce que nous lisons? Lisez ici comment l'esprit de prophétie nous décrit la scène. Le cœur de David fut touché par la réprimande du prophète. David n'était pas un homme endurci, impassible, intouchable, comme tant de personnes sont aujourd'hui. Nous leur présentons la parole, vous et moi, nous, et ça ne leur fait ni chaud ni froid, il paraît. Ils ne sont pas touchés par le fait qu'ils transgressent la voix de Dieu, ses commandements, ses ordonnances, ses exigences, ses appels, sa vocation. Ils ne sont pas touchés, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et David aurait pu, étant roi, aurait pu nourrir cet esprit, être impassible, dire « Non, toi, on te tue maintenant. » Il aurait pu, c'était l'esprit de Saül. Saül s'était tellement endurci qu'à la fin, il alla vers cette sorcière d'Endor, n'est-ce pas? Il avait plus de compas, quoi, plus de boussole, il avait perdu tous ses repères parce qu'il avait rejeté le commandement de Dieu, les directions de Dieu, et maintenant Dieu ne pouvait plus l'aider, il s'en est allé vers les magiciens. Vous comprenez? Mais David, nous lisons, le cœur de David fut touché par la réprimande du prophète. Quoi qu'il était élevé, quoi qu'il avait atteint cette grande élévation sociale, roi d'Israël, la réprimande du prophète le toucha. Il était encore vif dans nos cœurs. Il avait un cœur encore sensible, malgré son grand péché. Sa conscience se réveilla. Il avait été comme dans un sommeil du péché, un sommeil de la désobéissance, un sommeil où il avait tué, du sens de faire taire sa conscience. Et par la réprimande du prophète le réveilla, il se réveilla. Sa conscience fut éveillée à la gravité de la situation. Il n'avait pas effacé, étouffé cela. Non, il était vif encore. Sa culpabilité lui apparut dans toute son énormité et son âme pénitente, pas prétentieuse, mais son âme pénitente se courba devant Dieu. Il se courba devant Dieu. D'une voix tremblante, il dit « J'ai péché contre l'Éternel. » Voilà, frères et sœurs. Voilà l'exemple. L'exemple de Saul, Saül et David. L'exemple du juste et du méchant. L'exemple du juste que nous voulons être et du fait que même le juste tombe. Mais le problème, ce n'est pas s'il tombe ou pas. Le problème, c'est voudra-t-il bien être relevé par Dieu? Quand Dieu releva David, il le fit à travers la réprimande. Et puissions-nous voir comment Dieu nous relève et accepter qu'il nous relève, afin que nous puissions dire les paroles et répéter les paroles de Michée, chapitre 7, Michée, chapitre 7, versets 8 à 9. Ne te réjouis pas à mon sujet, toi mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai le courroux de l'Éternel, car j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse justice. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Si je suis tombé, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que je me relèverai. L'objectif du juste, donc, malgré sa chute et ses errances, amères et folles, c'est toujours d'être conduit à la lumière et de vivre en harmonie avec toute la justice de Dieu. Donc cela peut paraître contradictoire, mais en fait ça ne l'est pas, parce que ça coïncide avec la parole de Dieu, à savoir que le juste tombe 7 fois et il se relèvera, quand bien même le méchant, lui, se précipitera dans le mal et le malheur. Et donc, frères et sœurs, puissions-nous prendre courage face à ces choses-là, prendre courage de ce que notre cas n'est pas désespéré si nous chutons, si toutefois nous avons un esprit disposé à recevoir les corrections du Seigneur pour nous, à notre égard. C'est ma prière que nous puissions prendre à cœur ces choses-là et arriver à discerner leur manifestation dans nos vies, nos chutes et nos occasions que Dieu nous donne pour notre relèvement, afin que, ayant été tombés, nous puissions être relevés par Dieu et nous puissions aussi rendre témoignage que notre expérience est devenue meilleure qu'avant même nos chutes, pour que nous puissions voir et expérimenter, faire l'expérience de cette activité de Dieu dans laquelle il transforme nos chutes en victoire. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse dans ce sens. Au nom de Jésus. Amen.